qui a été et très justement qualifié de nouvelle étoile de la fantasy britannique, hein, donc un des auteurs les plus excitants du moment, en tout cas, oui. Indéniablement. Qu'on a découvert en France avec sa trilogie Première Loi, donc de Premier Sang à Dernière Querelle, qui est paru chez Pygmalion et puis chez J'ai lu, et qui est désormais traduit donc chez Bragelonne pour ses romans Servir froid, Les héros, dont le titre est assez paradoxal, et Pays rouge, le dernier.
Oui.
Voilà, c'est lui. Thomas Géin, donc, est un auteur français déjà à la tête d'une œuvre importante, hein, conséquente, en fantasy et en SF surtout, adulte et jeunesse, avec notamment donc récemment paru Sans visage, une dystopie chez Rajo, Alone. Tu prononces Alone ou Alone? Alone.
Comme vous voulez, alors là, peu
importe. Dont l'intégrale vient de reparaître chez Critique.
C'est ça.
Et donc les deux tomes de Sabre de sang, du Sabre de sang, chez Critique puis chez Folio SF. Donc c'est essentiellement de ce diptyque-là qu'il sera question aujourd'hui, parce que c'est quand même celui qui se rapporte le mieux au thème. Et enfin, donc, puisque Régis Godin, auteur de la saga Le sang des sept rois, n'est pas parmi nous pour le moment, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Antoine Rouault, donc, qui est la sensation française de cette année 2013-2014, avec un premier roman d'emblée traduit dans 13 langues, La voix de la colère.
Yes.
Premier volume d'une trilogie. Et ce qui les réunit aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant, c'est le thème chien de guerre, la fantasy, un monde criminogène, donc des personnages de dégénérés, des accès et des intrigues où la violence fait rage et où le sang coule. Voilà, donc est-ce que vous vous reconnaissez à peu près dans cette caricature d'une certaine fantasy ? Joe, vous êtes connu pour vos personnages amoureux, tous plus désaxés les uns que les autres.
There must be a mistake of some kind. I write polite drawing room comedies in the Jane Austen style.
Il doit y avoir une erreur. J'écris de la comédie en huis clos, très feutré, très poli, à la façon de Jane Austen.
Bon, tant pis, hein, on va en rester là alors. Et si vous écriviez de la fantasy avec des personnages violents, lesquels, comment les choisiriez-vous? Comment les caractériseriez-vous?
Yeah, I mean, I write fantasy with quite conflicted characters, quite dark characters often. I suppose I read a lot of fantasy as a child that followed on from Tolkien, some of the glossy, heroic 80s fantasy, if you like.
Oui, alors je pense que je peux dire que j'écris de la fantasy avec des personnages qui sont plutôt emplis de conflits, qui sont assez sombres. J'imagine que quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de fantasy, et en particulier donc dans la veine de Tolkien, donc la veine un petit peu policée qu'on avait dans les années 80.
I became a little bit frustrated with the way that they seem to go over the same ground a lot. And particularly the way you seem to get some very clearly and obviously heroic, purely and always heroic people on one side and some very dastardly and almost unexaminedly evil characters on the other.
Et je suppose que je suis devenu peut-être un petit peu frustré avec la manière dont ces récits couvraient plus ou moins toujours le même domaine. Et en particulier avec la façon dont les personnages, quand c'était les héros, étaient toujours extrêmement héroïques, extrêmement purs à tous les aspects, et que les adversaires étaient toujours de façon presque archétypale et caricaturale, et d'ailleurs sans réflexion, tous très très maléfiques.
But a lot of these shining heroes are often great warriors. they're violent men, in effect, although they have the luxury of killing orcs or goblins sometimes instead of murdering people, as we have to in real life.
Même si ces héros très brillants, très lumineux, avaient toujours, étaient toujours des gens très violents, sauf qu'ils avaient le luxe de pouvoir assassiner des hordes de gobelins plutôt que des êtres humains, des vrais gens.
And I suppose it felt to me a little unbelievable that men who are very good at murdering other people with edged weapons at close range would then be able to, when the war is over, be good friends, sensitive lovers, and effective bureaucrats.
Great kings.
Et finalement, ça m'est paru un petit peu difficile à croire que des gens qui, par ailleurs, sont extrêmement doués pour en assassiner d'autres avec des armes pointues, pouvaient, une fois que la guerre était terminée, se présenter comme devenir des amis tout à fait fiables, des conjoints et des amants extrêmement sensibles et des bureaucrates extrêmement efficaces.
Antoine Ruot, vous êtes dans un clair-obscur moral assez absolu, donc on est également dans une fantasy post-tolkienienne de ce point de vue. Il n'y a pas de bon et de méchant, hein, ni le jeune héros, ni le vieux. Enfin voilà, on prend parti successivement pour les deux. Il n'y a pas de bon système politique non plus,
enfin, tout
ni
est
le vieux, ni le jeune.
Tout est nuancé, du coup, c'est effectivement c'est à chacun de voir ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans tel ou tel personnage ou dans tel ou tel système de société. Je pense que c'est vraiment générationnel aussi maintenant d'essayer d'approfondir peut-être un peu plus, de sortir d'une image d'Épinal, du coup des grands bons purs, nobles, qui effectivement vont tuer, comme disait Joe Abercrombie, vont tuer des gobelins avec une violence horrifiante, et puis à côté vont rentrer chez eux tranquilles et manger une bonne poularde. Là, on est dans quelque chose, du coup, qui est peut-être vraiment plus réaliste, c'est-à-dire que les combats, les choix ont toujours des conséquences qui peuvent être des conséquences, de graves conséquences, du coup. Et c'est ça qui rend peut-être aussi ces histoires plus proches de nous, car justement plus réelles. On n'est pas tout blanc, tout noir.
Il y a la scène où Grenouille tue son premier ennemi, qui nous est vraiment raconté de très près, comme quelque chose de dans sa matérialité difficile. Donc, y compris dans la représentation de la violence, vous cherchiez à rapprocher cette expérience-là du lecteur.
C'était surtout mettre une vraie, un vrai poids sur le fait de donner la mort à quelqu'un.
C'est une grande différence entre les auteurs. Justement.
Effectivement, on part raconter l'histoire de quelqu'un au milieu d'une bataille qui va couper des têtes en se disant c'est juste génial, ça roule, qui a un vrai poids derrière en se disant voilà, j'ai quand même enlevé la vie à quelqu'un. Et encore plus dans l'histoire quand on comprend dans quel moment ça se passe pour le personnage. Voilà, ça a un prix quand même de faire un acte tel. Et en réalité, dans tous les soldats, dans toutes les guerres, tous les soldats ont aussi ce genre de traumatisme. Il y a eu un moment où la mort devient quelque chose de quotidien. Donc elle va être comptée, on le voyait avec des pilotes, notamment de la RAF, ou qui notaient justement le nombre d'avions qu'ils avaient abattus. Mais derrière ça, il y avait quand même l'idée que c'était des vies qui étaient prises.
Le roman le diptyque de fantasy de Thomas Géa est au contraire tout à fait dans une tradition de fantasy. Alors, qui en fait est ancienne, hein, parce qu'on dit c'est générationnel, on n'a plus envie d'une fantaisie à la Tolkien, mais en fait on peut revenir aussi à Conan ou à Vance, et c'est plutôt ce que fait Thomas Géa dans Le Sabre de Sang, donc avec un personnage le premier du moins hein, qui est gladiateur, qui est soldat, qui est guerrier, donc qui trouve cette arme maléfique qu'il possède. Donc ça, quelles sont vos influences vous, c'est pour cette représentation de ce type de personnage hein?
Déjà pour faire un aparté, juste pour dire que effectivement les salauds chez moi seraient les très très gentils de chez Joe Abercrombie. Bon, voilà. Bon, ça c'était juste pour la forme. Mais effectivement, oui. Je crois que
faut dire que
je crois que vous avez bien ciblé. Sinon, mes influences, elles sont celles des, j'allais dire des grands débuts de la fantasy, c'est-à-dire quand elle est née vraiment, j'allais dire dans à la fin des années 20 et pendant les années 30, dans des revues comme Weird Tales, par exemple, aux États-Unis, avec des auteurs, moi, qui m'ont toujours fasciné, comme, évidemment, Robert Howard, hein, ça, on peut pas passer à côté de Robert Howard, mais pas seulement, il y a eu aussi Catherine Lucille Moore, l'auteur de Chamblot ou de Gérald de Jouarry, ou encore, Fritz Leiber et son cycle des épées. De sa ville de Lankmar, de ses personnages du souricier gris qui est pas spécialement tout le temps un gentil non plus, et de Faftre, son acolyte. Effectivement, moi, toute cette culture là, elle m'a complètement imprégné. Moi, c'est la culture que j'ai connue quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, de la fantasy. Pour moi, c'était tout le temps là, c'était la même chose. Hein. Je faisais pas de distinction entre les deux, et je lisais aussi bien du Fritz Leiber que du Isaac Asimov. Donc, forcément, quand j'ai commencé à écrire aussi, j'ai écrit dans tous ces genres sans me poser la question de l'étiquette d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai ensuite eu un parcours assez classique, puisque effectivement, comme vous disiez, Jack Vance a été ensuite la majeure influence de ce que j'ai pu écrire et qui fait tout le terreau et toute la matière du Sabre de sang. Voilà. Donc, il y a un mélange de tout ça. Voilà. On n'écrit pas sans influence, à mon sens, donc toutes ces influences se retrouvent dans le Sabre de sang.
Joe, vous avez vous aussi beaucoup de personnages de barbares. Hein. Le barbare du Nord est un type de personnage récurrent. Le sanguinaire, le guerrier cuirassé qui effraie, dont le seul nom effraie tous ses adversaires. Est-ce que ce personnage-là vous vient un peu d'une image de Conan que vous auriez? Comme Thomas vient de la.
It's for me. It's very autobiographical, based on my own youth as a raider about the Baltic in a longship.
Oui, pour moi, c'est très autobiographique. Tout cela vient de ma jeunesse en tant que pirate et que pillard sur un drakkar dans la mer Baltique.
But seriously, I mean Howard, certainly, and also. By extension, the film of Conan the Barbarian as well was quite influential on me, I think, if one could
les
admit
to these things. Les années 80 ont été marquées par le film.
And playing a lot of role-playing games, I mean, a lot of the writers that you mentioned, obviously, Lieber, Jack Vance, guys like that.
Plus sérieusement, oui, certainement, Howard a été une influence pour moi, et par extension, le film, qui a aussi eu beaucoup d'influence et qui a marqué. Aussi également les jeux de rôle et puis tous les auteurs que vous venez de citer, Leiber, Vance, etc.
So I suppose, you know, Sword and Sorcery was quite influential on me in that Tolkien became very, very influential and almost seemed to dominate fantasy entirely in the 70s and 80s. Sword and Sorcery became the road not travelled, slightly. Smaller stories about very morally conflicted characters who are basically out for themselves.
Donc, oui, je suppose que la Sword and Sorcery, donc la fantaisie un peu plus sombre, est devenue une influence pour moi. En fait, Tolkien était devenu tellement, a une telle influence et il dominait tellement le paysage du genre dans les années 70-80 qu'en fait, la Sword and Sorcery est devenue le chemin qu'on n'empruntait pas ou très peu, donc qui présentait des histoires avec une envergure plus faible, mais avec des personnages beaucoup plus ambigus et surtout empreints de conflits moraux beaucoup plus marqués.
But like a lot of fantasy writers I talk to, I played a lot of role-playing games as well. in which the characters obviously are rarely paragons of virtue. In a way, the sword and sorcery mold of a small number of seedy, unpleasant people basically out for themselves suits role-playing games a lot better than the world-spanning, world-saving, righteous hero type effect.
Et donc ça a influencé beaucoup de la fantasy qui m'intéressait, en particulier dans les jeux de rôle. On a rarement des personnages qui sont des parangons de vertu, qui sont des gens extrêmement blancs et très purs moralement. Des personnages un peu plus déplaisants, un peu plus interlopes, conviennent mieux aux jeux de rôle que le genre de héros très droit, prêt à sauver le monde en toutes circonstances, avec une envergure extrêmement vaste. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis trouvé plus attiré vers ce genre de personnage.
But I was also reading and watching, I suppose, a lot outside of fantasy altogether. More and more as I started to get a bit frustrated with how fantasy seemed to be quite one-noted in the 80s. And so I started reading a lot of noir, a lot of westerns, where you do get a lot of violent, conflicted, morally ambiguous characters, I suppose.
Et aussi, je me suis mis en fait à lire et à regarder aussi des films en fait en dehors du genre de la fantasy, qui de plus en plus devenait frustrant pour moi, puisque au fur et à mesure des années 80, vraiment, je trouvais qu'elle était vraiment assez monochrome à cause justement de toute cette moralité qui était vraiment assez manichéenne. Donc je me suis mis à lire de plus en plus dans le genre, et par exemple des westerns où on a là effectivement beaucoup plus de personnages empreints de conflits, qui sont des personnages avec une nature violente, etc.
But a writer like James Ellroy, say, was also fascinating to me because he writes in this very tight point of view. He really puts you in the head of the character. And that, again, was different from a lot of the fantasy I was reading at that time, which all is very omniscient, looked down on from a great height, told in big wide shots. And so I started to be very interested in books that are told in tight close-up and really give you the feeling of what it's like to be in those situations rather than just describing them, if you like.
Je lisais aussi beaucoup de romans noirs, et notamment James Ellroy, qui pour moi m'a beaucoup marqué, puisqu'il écrit avec un point de vue extrêmement resserré autour de ses personnages et des événements, ce qui là aussi s'opposait à la fantasy de l'époque, qui au contraire utilise un point de vue très omniscient, avec une peinture en très large coup de pinceau, avec un point de vue très large, des panoramiques très larges, pour prendre une analogie avec le cinéma. Moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était de me resserrer davantage, beaucoup plus proche des personnages, avoir un point de vue plus resserré, ce qui nous permet d'être beaucoup plus plongé de façon beaucoup plus directe dans l'action et dans la situation que vivent les personnages.
I think that inevitably, when you describe violence from that, in that kind of style, from a tight point of view, you're covering the kind of fear, anger, pain, unpleasantness of it, you're seeing everything in tight close-up, it becomes gritty, it becomes dark, it becomes morally ambiguous, almost automatically, because violence must be all those things, really.
Et je pense qu'en fait, mécaniquement, de manière inévitable, quand on décrit la violence de cette façon, c'est-à-dire de façon beaucoup plus rapprochée, et que l'on décrit davantage au premier rang, aux premières places, la peur, la colère, la douleur, tout l'aspect déplaisant que la violence entraîne, par ce point de vue resserré, mécaniquement, ça amène un point de vue, un récit qui va être sombre, moralement ambigu, un peu noir, puisque finalement, c'est ce qu'est toute la violence en son cœur.
Alors, deux choses me font réagir dans l'intervention de Joe. La question du point de vue qui est passionnante pour les deux romanciers français qui sont autour de moi, puisque la voix de la colère est en soi un diptyque où les deux points de vue des deux personnages sont racontés à la suite l'un de l'autre, tandis que le sabre de sang est un diptyque dont le deuxième narrateur est l'ennemi mortel du premier narrateur. Donc dans les deux cas, on a cet effet de renversement, d'inversion complète de ce qu'on avait pu établir comme lien, comme proximité avec les personnages. Donc effectivement, c'est un un grand facteur d'ambivalence, de relativisation morale. Et puis le terme de gritty a été prononcé. La gritty fantasy, c'est cette nouvelle fantasy donc, dont Joe Abercrombie est un excellent représentant et à propos duquel le nom de George oui. Martin s'impose. Donc c'est gritty, c'est rugueux. Donc âpre, réaliste, c'est le nouveau courant qui monte. Donc comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette évolution assez marquée de la...
sur la gauche. J'essaie de me situer un peu plus sur la gauche. Ouais. Non, non, enfin, je sais pas comment on peut se situer. En fait, je sais pas si Thomas, vous écrivez de la même façon, c'est-à-dire... sans essayer de vous situer dans un mouvement ou dans un genre, c'est juste la finalité de ce qu'on veut raconter qui va du coup être placée dans un genre ou dans un style un peu particulier. Simplement, ce côté rendre pas l'histoire un peu sale, mais ouais, effectivement un peu noir, c'est simplement parce qu'on la rend aussi quelque part humaine. Et c'est un truc tout bête. Hein. J'ai envie de faire une métaphore culinaire. C'est un peu comme si on racontait au départ que quelqu'un qui n'aime pas les épinards raconte de son point de vue les épinards, c'est dégueulasse. Et de juste après, l'autre personne de son autre point de vue dit j'adore les épinards. Qu'est-ce que vous en retirez de, quelle est votre conclusion? Les épinards, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, du coup, vous savez pas. C'est à vous après de, du coup de goûter. Mais sur le coup, elle était assez pourrie cette métaphore en fait.
Non, mais moi, je
mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire de dire au départ, voilà, au départ, vous allez croire que c'est pas bon du tout, quoi. Et donc vous allez dans la tête du personnage principal qui va vous dire. Et puis après, vous allez avoir un autre point de vue qui va changer totalement l'éclairage de la situation. Et le tout, c'est d'essayer de pas embrouiller du coup le lecteur en changeant l'éclairage comme ça et en montrant ces choses-là. Mais c'est pareil, comme disait Joe Abercrombie sur le coup de la violence, la façon dont elle est montrée. Quelque part, on la rend pas coupable. C'est-à-dire que on l'explique, même si elle peut être jugée, même si on peut la trouver, enfin trouver que c'est un mauvais choix. Elle est expliquée de façon à ce que le lecteur puisse dire ben moi aussi peut-être que j'aurais fait pareil parce que justement c'est ben, la violence c'est un comportement qui est humain.
Alors il y a beaucoup plus de second degré ou de distance dans ce que vous écrivez, enfin, là encore une pas ce même cette même recherche de réalisme, il me semble.
Oui, alors, bon, d'abord, la métaphore culinaire, je l'aime
oui,
beaucoup.
Oui, évite.
Non, non, je l'aime beaucoup. Je suis content de ne pas l'avoir faite, mais je
mais
l'aime beaucoup.
Mais c'est vrai qu'il y a, ce même alors, passage voilà, dans les
dans
deux
les
romans,
sabres de sang, hein, effectivement, ouais. Parce que je change totalement de point de vue d'un tome à l'autre, et qu'en plus, je change aussi de style totalement d'un roman à l'autre. Parce que justement le point de vue n'est pas le même mais,
et voilà, c'est raconté donc, à la première personne
et en plus c'est raconté à chaque fois à la première personne donc effectivement il y a ce côté là aussi mais effectivement l'autre question intéressante aussi parce que moi justement je reviens à ce que disait Joe Abercrombie en parlant de western oui alors effectivement dans Les Sabres de Sang il y a peut-être un côté western parce que moi j'ai toujours été fasciné aussi par les westerns alors je pense pas les mêmes westerns que Joe Abercrombie lui il devait être plus Clint Eastwood et moi un peu plus John Wayne voilà mais il y a quelque chose qui me fascinait tout le temps dans les westerns c'est le côté un peu pulp hein, faut l'admettre
oui c'est ça c'est ce voilà. Que je voulais dire par le ouais, second ouais. Degré c'est le côté ouais, pulp
ouais. Complètement et aussi le côté duel. Moi, le duel m'a toujours fasciné dans les westerns, que ce soit dans les westerns avec John Wayne ou justement ceux de Clint Eastwood. Hein, voilà, que ce soit dans Rio Bravo ou Le Bon, la Brute et le Truand, on a toujours ce duel de fin là qui arrive et qu'on attend. On sait qu'il va arriver. Donc moi, dans Le Sabre de Sang, ce que j'ai voulu faire aussi avec cet environnement à la fois western, pulp, bon qui est nourri de plein d'influences, bah, quelque part, c'est d'arriver justement à ce duel là. Voilà. Et comme vous disiez, bah, avec parfois pas mal de détachement et aussi bah, souvent de second degré parce que les personnages, notamment dans le premier tome, Thierry Tcherna, est souvent dans l'autodérision. Cardelge, le personnage principal du deuxième tome, est parfois peut-être un peu plus sérieux, mais il est plus gentil aussi. Je sais pas, peut-être que c'est lié.
C'est peut-être pour cela qu'il y a tant d'humour hein, chez Joe Abercrombie, dont les romans sont très drôles avec une espèce de d'humour froid, comme servir froid. Mais alors, par contre, vous réussissez, je ne sais pas si c'est, je suppose que c'est volontaire, à nous rendre sympathiques ces épouvantables sales types. Moi, un de mes préférés, l'inquisiteur Glotka, dont la scène d'entrée est tellement effarante qu'on ne peut pas imaginer entrer dans une empathie quelconque avec lui. Et puis, à force de découvrir sa souffrance physique et donc sa douleur, la douleur morale qui l'accompagne, on se surprend à aimer ce personnage. Enfin, c'est un des plus aimables de...
Yeah, I suppose I was as frustrated by kind of cardboard villains as by cardboard heroes, if you like. Sometimes I want the villains to feel believable, and if a villain is believable, then in a way they start to no longer become the villain; they're simply the other side. Talking about tight point of view again, if you can really get in someone's head and understand why they behave as they do and develop some sympathy for them, then, you know, they're understandable. That's, I suppose, what you aim for. They feel like a real person, in other words.
Je pense que là encore, j'étais autant frustré avec les héros bidimensionnels, un petit peu une figure en carton, que j'étais frustré avec les adversaires, les méchants bidimensionnels, et que donc j'avais envie de les rendre, ces adversaires, un peu plus crédibles. Mais à partir du moment où on rend quelqu'un de crédible et un peu d'humain et qu'on rentre dans sa tête pour voir ce qu'il anime, bah il est plus vraiment un méchant ou un adversaire, il devient simplement l'autre côté de l'histoire. C'est ce que permet, à nouveau pour revenir sur le point de vue, c'est ce que permet un point de vue resserré, puisqu'on rentre dans la tête du personnage et ça permet de comprendre pourquoi il se comporte de cette manière. Et si on comprend pourquoi quelqu'un se comporte de cette manière, bah il vient une forme de compassion ou de sympathie pour lui, ça le rend compréhensible et du coup ça devient un véritable être humain.
In classic fantasy, you often have a right side and a wrong side, and you're invited to completely buy into that. In real life, we very rarely have that. We have our side and their side, often. And with a book like The Heroes, which was my last book, but one, that covers a battle, basically, but it covers people on both sides. So you're not invited to see one as the right side and one as the wrong. They're just all kinds of different people caught up in it in various different ways.
En fantasy classique, on vous présente le côté des bons, le côté des méchants, et puis vous êtes supposé accepter et croire cette division. Je pense que dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand il y a un conflit, il y a notre côté et puis il y a leur côté. C'est dans un livre, c'est assez visible, en particulier dans un livre comme Les Héros, qui dépeint une bataille. En fait, il y a des personnages et des personnes des deux côtés, et on n'est pas invité à considérer qu'un côté est le bon et que l'autre est le méchant. C'est juste l'histoire de différentes personnes, des gens différents qui sont embringués dans cette histoire de chaque côté de la bataille.
So it's about making the characters believable and relatable. And for me, sense of humor is absolutely vital in that. You know, I love to laugh at things. And I think as well, fantasy sometimes is guilty of being a bit pompous or out and out comedy. And I wanted something that was kind of neither one, that had a lot of darkness in it, but that also had humor in it, kind of the humor of real life, if you like, gallows humor. And I think often some wit in a book makes the darkness more unpleasant, and also, you know, the points of light make it easier to bear, so it doesn't become, you know, a desert of hideous, violent cynicism. You wouldn't want that.
Bonne question. Ouais.
Donc, et à nouveau, il s'agit de rendre les personnages crédibles et qu'on puisse, si ce n'est s'identifier, au moins les comprendre. Et je pense que pour faire ça, l'humour est absolument vital. En ce qui me concerne, déjà, moi, j'aime rire. Mais je pense que la fantasy a une tendance à être un petit peu, soit un peu pompeuse, soit d'être totalement une comédie débridée. Et moi, je voulais écrire des histoires qui soient ni l'un ni l'autre. Mais je pense que quand on écrit d'ailleurs un livre sombre, eh ben, l'humour rend quelque part un peu les choses, même si c'était un humour noir, rend les choses un petit peu plus supportables. Quand on a un peu des traits d'esprit et des choses drôles, alors qu'on a toutes ces ténèbres qui sont quand même assez déplaisantes, eh ben, ça fait des petits points de lumière et puis ça rend les ténèbres un peu plus faciles à supporter. Sinon, j'aurais un livre qui serait un total désert sombre de cendres très, très déplaisant et puis vous n'auriez pas envie de lire ça. Quoique.
Antoine Rouault, vous prenez le risque, vous, de rendre antipathiques vos personnages. Est-ce que c'est un risque assumé ? Enfin, ils apparaissent chacun
en parcours. Cool. Je comprends pas. Non, mais si, effectivement, parce qu'on part d'un principe. Finalement, le début du livre commence dans l'ordre chronologique de l'histoire aux trois quarts de l'histoire. Donc on découvre un général qui est un peu à la fin de sa vie, qui est un vieux réac raciste, voilà, qui
amer
sa vie. Et du coup c'est un peu quelque part une sorte de conflit de génération. C'est que moi j'ai été en contact avec de vieilles personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi du monde. Et finalement, en discutant avec elles de leur histoire, de ce qu'elles avaient vécu, on comprend en tout cas un cheminement de pensée et que des fois, c'était la pensée de l'époque. Il y a des grands auteurs, d'ailleurs, qui ont eu des pensées qui maintenant sont jugées plus que limites et qui, pourtant, c'était des pensées de leur époque et étaient des auteurs reconnus. Donc voilà, c'est montrer un peu que les personnages en fait ont plus de profondeur que simplement le masque qu'ils vont mettre à une certaine période de leur vie. Et c'est peut-être ça qui les rend du coup un peu plus attachants au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître. C'est justement c'est rentrer en profondeur et voir un petit peu ce qui les a amenés à devenir ce qu'ils sont maintenant et montrer aussi du coup leur côté un peu plus humain et on va fatalement s'accrocher à ça, même si tout le reste, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, on va les détester aussi pour ça, on va finalement aimer découvrir leur bon côté et se dire finalement c'est pas une sale ordure quoi, ce qui des fois est pas forcément le cas, mais voilà.
Oui, c'est encore plus compliqué que ça parce que Duncadal, justement, on le découvre s'occupant de grenouilles. On a l'impression qu'il lui met vraiment le pied à l'étrier, donc il devient une espèce de figure paternelle à laquelle on peut s'attacher. Et en fait, on découvre qu'il était totalement aveugle. Je ne veux pas spoiler, donc c'est une erreur, ne l'aurait pas encore lu.
Oui, non, mais c'est effectivement.
Voilà, il y a cet effet d'aveuglement de chacun sur les autres qui est très frappant.
C'est aussi quelqu'un qui a grandi dans un empire qui a été un peu abreuvé de choses, qui est tombé finalement dans une idée simple, c'est que ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a toujours dit, a toujours été vrai. Il se pose pas de questions. Lui, il est un peu manipulé. C'est un homme d'armes. Il est pas bête. Il est même assez intelligent. Mais il a été totalement aveuglé par le pouvoir et par la façon dont lui il a grandi. Donc il va pas chercher ailleurs. C'est un homme brut. C'est un homme du terroir. C'est un type qui pense aussi un peu avec ses mains, mais voilà, il se laisse attendrir par ce gamin. Il pense qu'il va en faire quelqu'un de très 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 grand et le reste finalement lui importe peu. Il sert un empire qu'il croit juste, bon. Il est dans le côté noble finalement de un petit peu de la fantaisie ancienne, c'est-à-dire que lui il y a les bons et les méchants. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et bizarrement, il y a un petit fond de pensée qui est quand même là où il se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et que pour lui, il voit pas finalement de différence entre un chevalier et un assassin.
ça, tout ça me fait beaucoup penser à Game of Thrones, hein, régulièrement, je suppose que ça vous revient. Vous y pensez également?
Je n'ai jamais lu Game of Thrones avant d'écrire ce livre. Et je n'aime pas l'humour, donc je n'écris pas avec de l'humour dedans.
Ah, mais Game of Thrones, c'est pas du tout drôle.
Non, non, c'était par rapport à Joe Abercrombie, qui lui aime mettre de l'humour.
Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je rebondissais en disant que c'était pas moi votre cas. Ça, donc ça n'attirait pas la sympathie de la même façon, du moins. Thomas Géa, vos personnages sont l'un comme l'autre possédés par... le mal, que ce soit par le sabre ou par les sinueux, le parasite. Donc ça les change de quelle façon, et est-ce que c'est cette dualité là que vous vouliez ajouter aux deux romans, déjà à ce premier diptyque?
Une bonne question, mais en fait oui, je pense que finalement le point de vue que l'on choisit justement dans un roman, et donc là en l'occurrence j'ai choisi deux points de vue très différents, le point de vue permet de dégager les enjeux d'une histoire, et là pour le coup j'ai choisi deux narrateurs, donc deux points de vue différents, même si à chaque fois ce sont des points de vue à la première personne. Mais ce sont deux personnages, donc Tirik et Kardelge, qui ont également des ambitions très très différentes. Tirik est un personnage qui est assoiffé de vengeance. Il veut se venger contre, il veut se venger d'une race, hein, d'une race qui sont les Kiviens en fait, voilà, qui a détruit son peuple tout bêtement. Et il est aveuglé par ça. Il est aveuglé par cette vengeance. Quant à Kardelge, lui, il n'a aucun désir de vengeance aussi global, aussi fort et aussi patriotique. Lui, c'est en plus un simple soldat, a priori, contrairement à Tirik, qui est un noble. Mais effectivement, on est tous les trois, je pense, justement, dans des points de vue qui sont, en fait, de la grosse dissimulation. Voilà, on dissimule tous des choses et on dissimule beaucoup. Que ce soit Joe avec ses romans, là, dans un seul roman, alors il a fait très fort, hein, Antoine, lui, dans la dissimulation, c'est peut-être celui qui a fait le plus fort. Et moi, effectivement, dans le mien, parce que sans vouloir déflorer l'intrigue de mes romans, je suis complètement dans la dissimulation par rapport à qui est le véritable héros du diptyque. Voilà. Donc. Voilà comment je répondrai à la question. Je pense que je peux pas en dire plus sans spoiler.
C'est difficile, ouais. Effectivement.
Sinon, tu fais une métaphore culinaire, hein, ça marche.
Je devrais essayer, ouais, mais j'aime pas trop les épinards. J'essaye de trouver quelque chose que j'aime plus.
Mais non, mais tu as le droit de pas les aimer, mais il faut que tu présentes le point de vue inverse également.
C'est vrai.
Alors, dernière toute petite question à cause de Servir froid. Et puis parce que le panel intégralement masculin y invitait. Et les femmes dans tout ça, le personnage de la femme, la violence féminine, vous l'avez abordé dans Servir froid. Sinon, c'est vrai que ça reste un point... obscur de beaucoup de représentations de la violence.
Up to a point, I suppose violence is generally a more male thing. Violent criminals, soldiers, they tend to be men more. I don't think there's a reason though why you can't have female characters doing some of these things. And certainly I try to. I think my first three books, I was guilty of failing to really produce a lot of interesting women characters. Weren't enough women in the world generally. And so since then, I've been trying to find ways to bring more women into the story while still producing an awful lot of bloody splatter.
Je pense que, dans une certaine mesure, la violence reste peut-être... de façon générale et globale, un peu plus une affaire masculine. Les criminels, les soldats violents sont en général plutôt des hommes. Mais je pense donc, je réfléchis donc à la question de fait d'avoir des personnages féminins intéressants. Je pense que les trois premiers livres pêchent un peu de cet aspect. Ils ont un peu de mal à présenter des personnages féminins qui peuvent être éventuellement intéressants. Et depuis donc, que je me suis rendu compte de ça, j'essaie de trouver un maximum de moyens d'intégrer des femmes plus intéressantes dans mes histoires, tout en conservant autant de sang sur les murs.
Oui, Monza Morcato étant le grand exemple.
Yeah, she's really violent. And hopefully believably so. I mean, I think people often say women don't tend to be that violent, but we very happily accept in fantasy a whole range of incredibly special and extraordinary men who can shoot lightning out of their fingers and stuff. So given that we accept that, it doesn't seem such a big reach to have a very violent, unpleasant woman in your book. I don't think. I mean, I've met a few violent, unpleasant women in real life, after all.
Oui, effectivement, elle est, pour le coup, elle est vraiment très, très violente. J'espère qu'elle est crédible. On me dit des fois, non, mais ça l'est pas parce que les femmes tendent à ne pas être aussi violentes. Je pense que ça peut être possible. Et puis après tout, on est en fantasy et on a quelque chose de merveilleux. C'est que dans un univers de fantasy, on peut avoir des hommes très spéciaux, très extraordinaires qui tirent des éclairs de foudre du bout de leurs doigts et des trucs dans ce genre-là. On peut aussi, pourquoi pas, je pense que c'est pas terriblement tiré par les cheveux de se dire qu'on peut aussi avoir éventuellement des femmes assez déplaisantes à connaître et assez violentes. Et puis d'ailleurs, en fait, il m'est arrivé d'en connaître dans la vie réelle.
Je crois que chaque homme a une femme badass qui sommeille en lui. Hein. Le fait est qu'à la base, la fantasy, on est quand même dans des sociétés qui sont relativement patriarcales. Donc tout ce qui est militaire est déjà très masculin à la base. C'est une question aussi de comment on veut raconter notre histoire et pourquoi on va mettre une femme effectivement qui serait aussi violente qu'un soldat ou qu'un vieux général. J'y pense dans La Voix de la Colère, ça ne s'y prêtait pas de créer un personnage comme ça, mais comme on est aussi dans une histoire de changement de société et d'ouverture aussi d'esprit, de changement de façon de penser, les rôles féminins vont être amenés à changer particulièrement dans la suite de cette trilogie. Après le fait qu'il y ait peut-être pas beaucoup de personnages féminins aussi violents, c'est peut-être justement parce que on est dans cette représentation assez patriarcale héritée du médiéval fantastique.
Oui, Fatoma a cité Girel de Zoisy de Zoary qui est un beau personnage très tôt dans la fantasy. Donc voilà, contre-exemple, mais donc ouais, Thomas, guerrière. Tu as choisi également un monde très viril. Très viril.
Oui, c'est vrai. De toute façon, tous les hommes qui hantent ces romans sont invariablement violents, même quand ils sont enfants. Donc effectivement, ils sont tous... ou alors je ne dois pas me faire beaucoup d'illusions sur notre sexe. Ça, c'est sans doute ça, j'en sais rien. Mais cela dit, je noterai aussi que dans Le Sabre de Sang, les femmes ne sont pas dénuées de violence. Moi, je les mets plutôt sur un pied d'égalité. Et je les considère même limite comme beaucoup plus intelligentes. Parce qu'elles savent aller au-delà de leur violence, justement. Et s'il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles dans mes romans...
Il y a de la manipulation.
Voilà, ce sont souvent les femmes. Et la violence n'est pas forcément que physique, elle peut s'exprimer différemment aussi. Voilà, et c'est, je pense, et elle s'exprime extrêmement différemment dans Le Sabre de Sang. Voilà. Notamment par le biais de quelques magiciennes. Voilà.
Alors, merci beaucoup à nos auteurs. S'il y a une ou deux petites questions, éventuellement, nous avons quelques minutes, mais guère plus.
Oui.
Non. Il est fort, hein. Pas de questions ? Eh bien, on lève le camp. Merci à vous, public. Merci encore aux auteurs. Merci.
No problem. You never know.